Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de quoi ? On va parler de Dead Cell, on va parler de Farpoint en VR, on parlera aussi d'Everything, on ira dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et on finira par Late Shift, et puis le reste du programme, vous connaissez le com des com, Monsieur Fall, qui sera là cette semaine. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de Passe le Stick, et de Twitch.
Oui, de voilà. Twitch, je suis un streamer, ça y est.
À moi
le CPM et les contenus sponsors, j'ai hâte.
Ouais, t'as de la marge quand même encore. T'as de la marge encore. Mais bon, j'ai vu, tu faisais un. J'étais là aussi quand tu faisais un Super Mario Maker.
Oui.
C'est compliqué. Hein,
Ah bah oui, non, mais c'est compliqué. Super Mario Maker. Ouais, je l'ai fait pour un streamer que je connais qui s'appelle Monsieur Sapin. Je lui fais 4 niveaux, voilà, donc c'est pas rigolo.
D'accord. Non,
mais sinon sur Passe le Stick pour du contenu sérieux.
Voilà. Évidemment, hein, très très sérieux. Et Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour.
Mais en même temps, maintenant, je pourrais dire Patrick Elio de No Life, de Game Cult, du livre des années 80 avec JV. Enfin voilà.
Ce que tu veux.
Ouais, voilà. De plein de choses. On commence avec toi, Corentin, avec des news du côté de Nintendo.
En fait, c'est le Wall Street Journal qui a souvent des bons bails hein, sur Nintendo. C'est, avec Eurogamer, c'était peut-être les deux publications qui ont balancé le plus d'insight en avance. Et donc, du coup, là, ils ont annoncé que Nintendo se dit « Tiens, peut-être que notre dernier jeu qu'on a sorti, comment il s'appelle sur Switch ? The Legend of Zelda. Peut-être c'est une licence qui ne marche pas si mal que ça et on devrait en faire un jeu mobile. »
C'est prometteur comme licence.
C'est prometteur comme licence. Donc voilà, apparemment, un jeu The Legend of Zelda sur mobile devrait pas tarder. Ça arrivera certainement après Animal Crossing, qui avait été repoussé plusieurs fois, mais qui, a priori, va quand même être assez... Enfin, il y a aussi beaucoup de potentiel. Animal Crossing est une licence qui marche à fond.
Ouais. Et qui est très compatible avec le mobile.
Aussi. Ouais, ah ouais, non, mais ça va être la mort. Hein,
alors
ça va être
que
la...
Zelda, c'est bon.
Zelda, on va voir. Est-ce qu'ils vont faire un pachinko ? Est-ce qu'ils vont faire un match 3 ? On va voir. Quoi qu'il en soit, ça.
En tout cas, on sera sûrement loin du dernier.
Ça va être compliqué de faire rentrer un jeu comme ça.
C'est difficile. Hein.
Oui. Et du coup, ça rentrera certainement dans le deal hein, avec Dena, cette société japonaise qui fait des jeux mobiles. Et ce n'est pas tout, puisque The Pokémon Company a également d'autres jeux dans les cartons. Alors, tout récemment, Magikarp Jump que j'ai pu essayer en avant-première, pas du tout en avant-première, que j'ai téléchargé, où on entraîne son Magikarp à sauter le plus haut possible. C'est con.
C'est con.
Mais c'est... Écoute, ça m'a bouffé une moitié d'après-midi, donc ça
doit être... On est à la limite de Lidl Game, quoi. Enfin, c'est du jeu où il faut...
Ah, mais c'est du Lidl Game. C'est du cookie clicker. Il y a du paiement, du micro-transaction. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que, alors que ça soit dans... non, c'est pas dans Fire Emblem, je sais plus c'est où, mais dans les jeux mobiles Nintendo, souvent, il y a une limite d'achat. Tu peux pas acheter au-delà d'un certain point. Après, il te dit, non, mais vous pouvez plus acheter parce que vous avez déjà trop dépensé pour cette application. Et ça, je trouve ça plutôt sain comme réflexion. Et puis aussi, ils veulent sortir une nouvelle application concernant le jeu de cartes, puisque The Pokémon Company a déjà, en fait, une application de jeu de cartes sur iOS et Android. Voilà, c'est comme Hearthstone, mais avec le jeu de cartes Pokémon. Mais là, ils vont en sortir une autre. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle marche plutôt bien, l'autre. Alors, peut-être pour de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en jouant avec vos cartes Pokémon, des vrais Pokémon pourraient sortir de vos cartes. Voilà, c'est les rumeurs qui circulent ou les hypothèses qu'on pourrait formuler. Et puis, on peut quand même noter, signaler cette prophétie qui s'est enfin réalisée ou finalement réalisée ou alors malheureusement réalisée. Mario et les lapins crétins ont enfin leur crossover officiellement leaké par Ubisoft. Voilà. Donc, je sais plus, c'est Ubisoft Milan et je ne sais plus quel autre studio d'Ubisoft qui s'en occupe. Mais a priori, on est dans du RPG, tour par tour, jouable en coopération. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme disait Twitter, qu'est-ce qui se passe quand on donne Nintendo à des sociétés occidentales ? Eh ben, ils leur filent un gun. Voilà, donc Mario a un gun et il tire sur des gens. Bon, on va voir.
On ne va pas juger.
On ne juge pas.
avant ça se trouve, ça peut être très bien.
Ça se trouve, ça va être très bien. Mais en tout cas, la surprise est un petit peu éventée. Oui. Voilà, dommage.
Patrick.
Oui, alors on avait, je crois que ça avait été annoncé il y a quelques temps que qu'une série animée Castlevania était dans le pipe. Et ça a été donc officialisé, donc c'est chez Netflix. C'est Netflix qui va diffuser ça. Alors moi j'étais plutôt suspicieux, hein, j'avoue que Castlevania c'est un univers tellement marqué avec une ambiance très particulière, avec une évolution en plus de 30 ans parce que c'était 31 ans je crois cette année.
Premier jeu, non, il y en a avec les derniers jeux.
C'est vraiment une saga qui a vraiment une personnalité, donc j'étais assez réticent, mais il y a eu ce teaser là qui est sorti en fait. On a eu une annonce avec une date, donc une sortie le 7 juillet d'une première saison de quelques épisodes. Et puis surtout une petite bande-annonce. Alors donc on a quelques images de la série animée en elle-même, qui n'a pas l'air extraordinaire, mais qui a l'air de plutôt matcher avec l'ambiance de Castlevania. Et puis surtout, on sent une volonté de faire bien chez Netflix en l'occurrence. Parce que les premières images, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, on voit une NES. On voit un type qui met une cartouche dans la NES, qui se retrouve avec une interface Netflix ambiance NES, tout en pixelisé, etc. Et donc la série qui se lance. Donc, j'ai envie de dire, ça fait envie. On sent qu'il y a une volonté.
Ça te fait envie particulièrement.
j'avoue que ça m'a touché. Mais non, mais c'est important. Je veux dire, quand tu t'attaques à une série comme ça, attention, c'est quand même une série qui a toute une histoire. Donc c'est aussi important de. Et je trouve que Netflix a bien compris qu'il touchait un public gamer évidemment avec Castlevania et qu'il y avait une nécessité aussi de leur montrer qu'ils connaissaient un petit peu de quoi ils parlaient, qu'il y avait un historique, etc. Je crois qu'à l'écriture, c'est Warren Ellis qui bosse sur l'écriture.
Ok.
Ça a l'air sérieux. On verra. Donc c'est le 7 juillet. Donc
un auteur de comics.
Oui, qui a aussi tout un historique.
Et de romans, par ailleurs. Mais
qui est reconnu. Donc, ça peut le faire. Donc, début juillet, on en saura plus. Alors, ça, c'était une news. On sait que Netflix, je crois qu'il y a The Witcher qui a été confirmé aussi, qui a été annoncé, on n'en sait pas plus. Il y avait eu un Skylanders aussi, une série qui existe aussi sur Netflix, qui a été produite avec Activision. Donc, on sent que Netflix veut vraiment travailler sur le jeu vidéo.
Netflix investit énormément de pognon, donc c'est...
Donc là, ils y vont, et en tout cas, ils visent les joueurs. Mais bon, là, ça, c'était une des news, mais la news des dernières semaines, évidemment, vous ne l'aurez pas loupé, c'est une news CinemaWare, on parle
non.
de...
Non
eh, si, si,
Non
si, j'en ai trouvé une.
Non, mais c'est trop vrai. Bien, c'est trop bien.
Alors, il y en a une, alors attention, j'en avais... En fait, il y avait eu un teaser du film It Came from the Desert, j'en avais parlé il y a peut-être un an ou deux, je sais plus,
c'est un petit moment,
mais on suit ça de près, il y avait eu un teaser un petit peu flippant, et là, on a un vrai trailer qui est sorti il y a une petite semaine maintenant, donc d'un film, It Came From The Desert, qui va sortir. Alors, je suis très partagé, parce que d'un côté, je suis ravi de me dire qu'on va peut-être pouvoir aller en cinéma et avoir un film qui va débuter avec le logo CinemaWare. C'est une sorte de... Voilà, ça fait quelque chose, hein, ça laisse pas de marbre.
Mais lui, tu vas, tu regardes le logo et tu t'en vas.
Non, je vais regarder le film quand même. Alors c'est là où je suis un peu plus inquiet, c'est que le trailer est sympa, mais ça me fait plus penser à Tremors ou à une série B vidéo qu'au film Vem, qui était Vem, les monstres attaquent la ville, qui était vraiment le matériau original qui avait inspiré It Came From The Desert. On est sur, a priori, ça fait très direct ou vidéo, hein, ce qu'on voit. Ça se passe, donc c'est contemporain, il y a des motocross dans le désert. Ça me fait peur parce que...
Ça, on l'avait déjà dans le teaser.
Je crois qu'on avait déjà ça dans le teaser. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas l'ADN de CinemaWare. On s'est pas bien compris parce que CinemaWare, c'était... non, c'était un éditeur, on resitue. Donc, c'était pour moi le pic de l'Amiga. C'était un des meilleurs développeurs sur l'Amiga qui essaie de reproduire l'âge d'or du cinéma hollywoodien en jeu vidéo. Donc c'était un des pionniers du rapprochement avec le cinéma, ça devait être un de nos fils rouges aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment, It Came From The Desert, c'était vraiment un de ces jeux qui était vraiment dans l'ambiance du cinéma des années 50 de l'âge d'or hollywoodien, et là on n'a pas du tout ça. J'ai retrouvé, d'ailleurs je l'ai posté sur Twitter, une interview du réalisateur, qui nous dit qu'à la base, lui, il voulait faire un film avec des araignées géantes dans le désert et des motocross dans une ambiance années 80. Et qu'après, donc, il s'est rapproché de CinemaWare et que, bon, il a finalement transformé ça en fourmi, etc. Bon. Non, mais je suis inquiet, mais je vais suivre ça de près. À mon avis, on l'aura sûrement pas en salle en France. Je me fais aucune illusion, ça finira en direct ou vidéo. Mais bon, on va suivre ça de près parce que c'est quand même du CinemaWare, donc...
J'aime bien la façon dont tu fais de l'écriture pyramidale, même dans tes news orales, parce que j'étais en mode « C'est quoi CinemaWare ?» C'est gentiment comme ça, je fais « quoi il parle ?»
Bah là,
il finit par expliquer, je fais « Ah !»
Il faut que tu apprennes à connaître ce studio mythique des années 80, qui est vraiment une pierre angulaire du jeu.
À une époque, dans Silence pour vous, on avait une news CinemaWare par semaine. Donc voilà.
Maintenant que je suis Twitcher professionnel, entre deux pauses pubs, j'irai voir.
Tu vas nous faire une émission, une retransmission directe. On va suivre ça de près, parce que c'est quand même. Non, mais c'est un événement. C'est quand même un jeu un peu oublié. On peut pas dire que ce soit un jeu mythique aujourd'hui pour tout le monde. On est quelques-uns à se rappeler de Cinemaware. C'est étrange que cette licence
soit. Cinemaware, pour moi, c'est Defender of the Crown. Mais bon, c'est.
Mais il y a eu d'autres. Il y a eu Wings. Il y a eu plein de choses. Et mais bon, en tout cas, voilà, ce film. On va suivre ça de près, mais il y a une inquiétude qui plane.
Le com des coms de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on avait parlé notamment de What Remains of Edith Finch.
Ça fait envie. Hein,
Et avec une particularité qui a fait réagir, évidemment, c'est qu'on s'est autorisé les spoilers parce qu'on en avait envie.
En fait, en prévenant.
En prévenant, évidemment, j'ai beaucoup prévenu avant, et ce qui fait que énormément d'auditeurs, de téléspectateurs ont arrêté, n'ont pas regardé, parce qu'on a dit, bah voilà, le jeu dure 2h30, 3h, c'est compliqué. En fait, le truc, c'est que j'avais trop peur qu'on en fasse sans faire exprès.
Parce qu'une chaîne vidéo YouTube, tu pourrais choisir. Enfin là, je parle déjà du prochain jeu dont on va chroniquer. Où tu choisirais une version de ton
spoiler
émission, en fait,
spoiler.
Oui ou non. Tu vois,
ça
pourrait être un.
Et pour le coup, voilà. Donc Red nous dit pour la première fois depuis le début de Silence on joue, je n'ai pas écouté votre critique d'Edith Finch du fait des spoilers constants. J'ai été étonné. Je pense qu'il y a d'autres façons de parler de ce titre qu'en le racontant. Par exemple, en partageant votre émotion. Vous y êtes peut-être arrivé après les premières minutes. Je terminerai de vous écouter après avoir fini le jeu, promis. Bon, on espère bien, déjà. voilà, c'était tellement compact comme jeu que voilà, j'avais peur que en s'interdisant les spoilers, on s'interdisait aussi de parler d'éléments structurants, d'éléments marquants de notre expérience et des émotions que ça a déclenché.
C'est l'équilibre, le spoiler. Il faut à la fois pouvoir cerner le sujet d'un jeu sans en dire trop, et en même temps, il faut donner envie. C'est vrai, quand tu veux donner envie d'un jeu,
c'est toujours difficile. Et pour des expériences, parce que voilà, en plus, Edith Finch, c'est une sorte de puzzle comme ça, de plein de petits trucs. C'est pour ça que c'était compliqué. Autant Firewatch, je pense qu'on pouvait en parler. On en a parlé sans spoiler ou en tout cas sans trop spoiler. Là, c'était compliqué parce qu'il y a plein d'expériences différentes. Elles s'agencent d'une certaine manière. Là, je ne spoile pas, par exemple. Mais c'était compliqué de. Enfin, j'avais peur. En tout cas, vu qu'on n'écrit pas Silence on joue avant de le tourner, je trouvais que sans faire de spoiler, en s'interdisant de faire les spoilers, j'avais peur qu'on tourne en rond à un moment.
T'as pensé à biper 20 minutes d'émission ça pourrait être bien. Hein.
Ou alors, il faudrait faire la critique 2-3 mois après la sortie, en disant on laisse passer le
mais là, pour le coup, voilà, ce que je me suis dit, c'est que, c'est un excellent jeu qu'on peut conseiller presque à l'aveugle. Deux, il dure 2h30, 3h, voilà, donc je pensais, voilà, les auditeurs, ceux qui savent qu'ils vont y jouer, ils y jouent avant.
Je ne serais pas envisagé de dire, on fait un message, jouez ce jeu, parce qu'on vous le conseille vraiment, et on en reparlera dans un mois ou deux quand vous l'aurez fait.
Ouais, c'est un peu compliqué. Et enfin, Stonga 9, très bonne histoire interactive que ce What Remains of Edith Finch. La réalisation est excellente avec de vraies trouvailles, l'affichage des sous-titres a été souligné par les chroniqueurs, et l'histoire des Finch sont très bien écrites et mises en scène avec 2-3 pépites. Certes, une ou deux histoires sont moins touchantes, une ou deux essayent de tirer les larmes de façon un peu moins subtile, mais globalement, c'est brillant. C'est coloré, c'est poétique, c'est émouvant. Ça ressemble à ces livres anglais, plein de mécanismes, d'objets à tourner, de ficelles à tirer, de flip-flap qui enchantent des histoires qui sont au fond tellement tragiques et terre-à-terre. Voilà. Donc, What Remains of Edith Finch, je ne saurais que reconseiller, encore une fois, d'y jouer. Et c'est le moment de commencer avec la dernière production d'un studio bordelais qui a une longue histoire, ce studio. Ce studio s'appelle Motion Twin, le jeu s'appelle Dead Cell. Par être mort. Voilà, on est mort, et puis on est décapité, et puis on revient à la vie. On revient à la vie, enfin, bon, d'une manière un peu bizarre, avec un espèce de truc à la place de la tête. Et c'est parti pour du Rogvania. C'est, Dead Cell 1. Alors, on se demandait Dead Cell, ce jeu, je ne sais pas.
Dead Cells.
Ouais, peut-être Cells. On incarne, un revenant ou une revenante, je ne sais plus. Moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, moi, j'ai plutôt... Alors, Il n'y a pas trop de narration dans le jeu. Enfin, il y en a un peu, là, ils en ont rajouté depuis les dernières mises à jour, vu que le jeu est en accès anticipé pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une espèce d'organisme qui prend le contrôle d'un cadavre qu'il trouve, en fait.
Ouais.
Donc, en réalité, on ne sait pas trop ce qu'on joue. On joue une espèce de slime, une espèce de gelée qui se met à la place de la tête d'un mec qui a été décapité, qui prend son corps et qui part à l'aventure, quoi.
C'est
un peu étonnant. Est-ce un homme, est-ce une femme? C'est un slime.
Et donc, je disais tout à l'heure, moi, j'ai été assez étonné parce que j'avoue que je n'ai pas trop suivi. J'avais vu une bande-annonce, mais je n'avais pas fait le lien de voir qu'à la réalisation, c'était Motion Twin. Motion Twin, je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un studio bordelais, c'est une SCOP déjà, donc Société Coopérative Ouvrière de Production, donc ils sont tous actionnaires à la même hauteur. Et en fait, ils ont été connus par des petits jeux web viraux. Voilà, c'était La Brute, La Horde, Miniville, je crois qu'ils avaient fait aussi.
Peut-être.
C'est vraiment des jeux où il y avait un aspect communautaire, un aspect un peu viral comme ça qui faisait que ça cartonnait.
Et surtout, ils étaient bons là-dedans. Je veux dire, il y avait les jeux Flash, puis il y avait les jeux Flash Motion Twin.
Pourquoi ils étaient bons?
Parce qu'ils avaient toujours un aspect communautaire. En fait, ils ont inventé le social game avant Facebook et tout ça. Ouais. Quoi. Les mecs, par exemple, il y avait ce jeu. Moi, mon jeu préféré, pour moi, leur plus grosse réussite, c'est Horde, très clairement. Ouais. C'est un jeu de zombies où tu arrives à 40 joueurs dans une ville, il y a un forum où on discute, et le but, et chacun a 5 points d'action. Et avec ces 5 points d'action, on doit s'organiser pour organiser la résistance de sa ville. Sachant que, par exemple, pour construire, je sais pas, un mur ou un truc comme ça, il faut 40 points d'action. Il faut se mettre d'accord sur où on met les points d'action. Et du coup, il fallait aller dans les forums. On pouvait se retrouver terrorisé à écrire des trucs dans le forum qui se retrouvaient modifiés par le jeu parce que tu étais terrorisé, donc tu parlais de manière incohérente.
Ah, c'est malin, hein.
C'était très bien pensé. Il y avait une gestion des trucs. Il y avait des complots qui se mettaient en place. C'était très, très bien, mais vraiment, vraiment. Pour moi, ça a marqué mes années lycée, quoi, Horde, très clairement.
Ouais.
Et du coup, j'étais heureux de les voir revenir.
Et puis, ça a été toujours. Ils se sont toujours attachés à la qualité et graphique et du gameplay de ce qu'ils proposaient.
Ils sont très bons en pixel art, en fait. Ouais. C'est vraiment, je trouve, leur point fort, et on le revoit encore dans Dead Cells, puisque c'est globalement beaucoup de pixel art et du très joli pixel art par ailleurs.
Parce qu'il y a pixel art et pixel art.
Ah oui, mais là c'est vraiment joli. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Ils sont allés du jeu Flash, ensuite ils sont allés sur le jeu mobile, et ensuite maintenant ils arrivent, ils disent bon, on va tenter.
Et entre-temps, et surtout, voilà, je sais pas si c'est lié à leur structure comme ça en tant que SCOP, mais ils ont aussi une volonté de défricher, une volonté d'aller voir ce qui se fait, et ils sont très 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 présents sur les Game Jam. Sur leur site Motion Twin, on peut aller voir toutes les réalisations des membres de Motion Twin sur les concours comme ça de Game Jam. Ils ont fait des bons scores dans certains Ludum Dare c'est le must de la création, vraiment indé, enfin voilà, dans le sens premier du terme.
Et surtout, Dead Cells, c'est un peu leur recherche d'un troisième souffle, parce qu'ils ont eu, donc il y a eu la fin d'une ère avec les jeux Flash, on joue plus aux jeux Flash aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Le mobile, je crois que ça a pas été ultra méga satisfaisant, même s'ils sont présents, tout ça, mais là, ils sont à la recherche d'un troisième souffle avec la scène indé sur Steam, et pour l'instant sur Steam, je crois pas qu'ils soient ailleurs de prévu, ce sera peut-être prévu plus tard, mais a priori, c'est bien parti, puisque les sites anglo-saxons commence à parler d'eux, les retours sont excellents. On va en parler là du gameplay, mais le jeu est très bon, quoi. Enfin,
c'est
franchement
assez mortel.
Tu commences à jouer, tu prends un pied immédiat, c'est assez dingue. Ouais. C'est vraiment le personnage est fluide. Donc on va peut-être replacer le contexte. Donc tu as utilisé un mot Rogvania.
Rogvania.
C'est très bien parce que c'est ça. C'est-à-dire c'est un mélange entre un roguelike. Il y a des notions de roguelike, c'est-à-dire que tu meurs, tu recommences avec des petites améliorations au fur et à mesure qui font que d'une partie en partie tu deviens de plus en plus puissant malgré tout. Et Castlevania dans le côté Metroid-like, dans le côté on a un château vu de côté avec une map un peu caractéristique de ce genre de jeu. Avec des power-ups qui permettent d'accéder à certains lieux et pas d'autres. Mmh. Et à chaque partie, à l'instar d'un Rogue Legacy, tout le château est randomisé, on recommence, toute la structure du château est changée, même si en vrai c'est des chunks, c'est comme d'habitude, quand c'est généré aléatoirement, c'est-à-dire qu'on reconnaît certains patterns trucs, mais bon.
Et heureusement.
Et donc vous avez votre personnage qui est en 2D, qui peut faire une roulade, qui a accès à deux armes et à deux sortilèges, une fiole, qui arrive assez rapidement dans le jeu, à l'instar d'un Dark Souls. Donc on peut boire et qu'on peut recharger à chaque fois qu'on arrive à un checkpoint dans le jeu. Et voilà, il y a cette espèce de mélange entre Castlevania, un roguelike et Dark Souls, quoi. Donc on est là face à des ennemis qui sont assez impitoyables, qui nous mettent des coups et on doit faire une esquive au dernier moment pour passer derrière, mettre un combo, tout ça. Il y a des archers, on chope différentes armes. Donc on les chope soit dans la nature, soit on récupère des plans qu'il faut amener à un mec qui est entre les niveaux pour que tu puisses les débloquer. Ouais. On récupère au fur et à mesure qu'on tue des ennemis une espèce de
d'orbe,
une currency, les fameuses cells en fait, on récupère des cellules, voilà, et qu'on peut échanger pour débloquer des armes au fur et à mesure dans les niveaux, enfin qu'on peut elles vont apparaître en fait, elles vont apparaître comme dans un il y a plein d'exemples, mais comme dans un Crypt of the Dancer, on débloque des armes qui finissent par apparaître dans le jeu en fait, c'est-à-dire on les débloque pas genre elles sont dans notre inventaire, elles finissent par apparaître dans le donjon et
elles font partie des armes random.
Voilà, elles font partie. On augmente le pool d'armes en fait au fur et à mesure. Et voilà, et tout ça fonctionne. C'est un mélange, c'est une espèce de patchwork de plein de références, de vieux jeux, de jeux plus récents, de mécaniques modernes. En fait, c'est le vrai new rétro gaming, quoi. C'est vraiment du rétro gaming dans l'aspect avec tout ce côté pixel art, très joli 2D. Tous les monstres sont en fait en 3D mais plaqués, donc ça fait de la 2D en fait. C'est-à-dire que c'est des voxels rendus 2D, tu vois. Il y a tout un système de particules absolument joli.
Ça,
donc
c'est moderne, par contre. Voilà, c'est ça, c'est le mix moderne et...
Mais ils ont réussi. Et franchement, moi, là où j'ai été soufflé, c'est que ça reste d'une cohérence impitoyable. C'est vraiment structuré. Tu comprends où tu es. Ouais. Tu comprends ce qu'il faut faire. C'est pas du random pour du random. C'est pas du Rockvania. C'est pas du roguelike pour du roguelike. C'est pas du Metroidvania pour du Metroidvania. T'as plein d'ingrédients, mais je te jure, c'est un peu le top chef du jeu vidéo. Quoi. C'est les mecs, ils sont partis dans la salle des ingrédients, ils ont récupéré plein de trucs.
Ah, c'est marrant comme façon de voir les choses, mais c'est un peu
ça. Ouais. Et ils ont réussi une sorte de plat gastronomique.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu, pour prendre une métaphore pourrie, mais mais j'en ai conscience, mais il y a de ça. Ils ont pris plein d'ingrédients connus du jeu vidéo,
et ça marche.
Mais vraiment connus. Hein, on sait où on est, on reconnaît les patterns, mais ça marche tellement bien, quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, pareil, on croise évidemment plein de monstres, et puis il y a les versions épiques de ces monstres qui commencent à être bien problématiques, si tant est qu'on n'a pas récupéré suffisamment de power-up et de machin pour les affronter. Du coup, il y a tout qui fonctionne, en plus avec une sorte d'économie sur les touches. Ce qui fait que je trouve, en tout cas, que le truc n'est pas complètement impossible, quoi. Enfin, c'est-à-dire que...
En fait, l'avantage, c'est que tu peux changer toutes les touches. Vraiment. Donc, le jeu se joue évidemment à la manette. Et pas, c'est plus compliqué au clavier-souris, évidemment, mais on peut. Mais en vrai, ils conseillent de jouer à la manette. Mais moi, par exemple, je sortais de Nier Automata, donc j'avais très, très envie de mettre l'esquive sur la gâchette. Ouais. Bah, c'est possible. Et d'ailleurs, le HUD change en fonction, parce que toutes les touches sont affichées à l'écran, et ça, c'est super cool. Genre, c'est comment le bouclier? Parce que tu peux mettre le bouclier sur le bouton d'attaque. Il n'y a pas attaque forte, attaque faible. En vrai, tu choisis ce que tu mets où tu veux. C'est vraiment... Tu
as deux attaques, deux sorts, deux objets.
Et si tu as envie de mettre deux boucliers, tu peux mettre deux boucliers. Enfin, tu vois,
ça sert à rien.
Ça sert à rien, mais tu peux. Et c'est vraiment cool. En plus, je trouve qu'il n'y a rien de frustrant. Enfin, tu peux te dire, moi, les cooldowns, ça me saoule dans l'ensemble, dans les jeux. Mais là, les cooldowns sont tellement rapides que c'est vraiment bien, quoi. Et surtout que ce jeu-là, je l'avais vu, je ne sais plus, c'était à la Paris Games Week, je crois. Et il était beaucoup plus raide avant. Et là, quand j'ai remis les mains dessus, j'ai fait, il est souple. Ah, c'est agréable. Il y a un double jump, on peut faire des charges au sol. Tout est gratifiant dans le jeu. Quand tu frappes un ennemi, tu ressens l'impact. Quand tu prends un coup, tu le sens aussi. Il y a les musiques sont sympas aussi. On a le, comment ça, moi, ça m'évoque un peu Diablo pour les petites sonorités à la guitare et tout. C'est vraiment sympa. C'est impossible de résumer ce jeu-là sinon par la très jolie formule Rogue-Vania. Non mais c'est Rogue-Vania.
D'ailleurs en fait c'était rigolo, la première fois où j'ai entendu Dead Cell parler de Dead Cell, c'était une vidéo sur Gamasutra, donc le site
des
créateurs de jeux vidéo, qui décryptait le premier teaser de Dead Cell pour dire à quel point ce teaser était la perfection des teasers, en fait. Mm-hmm. Et en fait, parce qu'ils avaient fait, justement, ils avaient mis Rogue-Vania, mais en gros, genre, on sait, voilà, c'est ce qu'on vous propose. Et je trouve que, voilà, et en quelques images, ils avaient réussi à résumer leur jeu. Et c'est vrai que, on sait où on va. Et franchement, moi, sur les roguelikes et même sur les Metroidvania, je ne suis pas vraiment pas un pro des deux. Mais c'est, je trouve qu'il y a un côté non frustrant d'absence de temps de chargement, d'évolution, voilà, d'évolution à chaque mort.
Même si tu fais une très mauvaise run, tu progresses dans ce jeu-là. C'est-à-dire que, ok, tu vas finir que la première strat et puis tu vas récupérer 10 cellules et puis tu vas les foutre dans une upgrade très longue. Mais t'auras fait progresser l'upgrade, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on peut upgrader sa bourse pour qu'elle reste une fois qu'on est mort. On débloque des pourcentages. Au début, on va garder 20%, puis 40%, etc. Ouais. Et même si on a récupéré que 8 cellules sur les 150 nécessaires, eh ben, tu peux quand même les mettre, les 8. Et puis, ça sera 8 de moins pour la prochaine fois, etc. Donc, même quand on fait une très mauvaise run, au final, ça va se débloquer naturellement. Il y a une espèce de game design naturel, de rééquilibrage naturel qui se met en place et qui fait que de tout niveau, même si t'es très mauvais, très bon, ça va se dérouler, ça va finir par se dérouler. Même si c'est un roguelike, même si c'est un genre extrêmement exigeant, ça finira par s'ouvrir à toi au bout d'un moment et tu vas finir par t'en sortir. Et ça, c'est cool, ça, c'est vraiment cool.
Dead Cells de Motion Twin, actuellement en accès anticipé sur Steam, et vraiment une performance, un très bon succès et des Steam, et ça cartonne bien déjà.
Ça marche bien. J'ai pas regardé les chiffres.
Et c'est une très bonne nouvelle pour Motion Twin. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall. Monsieur Fall, alors en début d'émission, allez, soyons fous. Enfin, en début. Enfin bon, façon de parler. Hein. C'est donc Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose un party game parce que c'est bientôt l'été qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à prendre des petits jeux à glisser dans votre sac à dos pour vous faire plein de copains dans tous les campings où vous ne manquerez pas de vous arrêter. Et ce party game cette fois-ci c'est Twin It, un jeu signé à 6 mains. Il y a Rémi Saunier, Nathalie Saunier et l'incroyable Tom Burchett sur la sueur des graphismes, et vous allez voir, ça pique un peu les yeux, cet homme-là est copain avec tous les ophtalmos de France. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes, et c'est édité en français par Cocktail Game. Alors qu'est-ce que donc que Twin It ? C'est un jeu qui a une histoire un peu particulière. Tom Virchek, il y a quelques temps, a eu une idée formidable. Il a créé une affiche qui ressemble à des papiers peints des années 60-70 avec plein de formes un peu bizarres à l'intérieur. Cette affiche était destinée à être mise sur les portes des toilettes, et quand vous faisiez votre petite affaire, vous cherchiez les paires qui étaient très très difficiles à trouver. Et puis ça a eu un succès un peu bizarre parce que c'était très difficile de le vendre en boutique spécialisée de jeux. Une affiche, c'est un peu étonnant à vendre. Et puis dans les librairies aussi, ça marchait pas très bien. Ça faisait un produit un peu spécial. Rémi et Nathalie ont proposé à Tom une nouvelle version d'en faire un vrai jeu dans une boîte, et voilà qu'est né Twin It. Le principe rappelle un petit peu le Jungle Speed dont Tom Burchett est le co-auteur. Oui, chaque joueur aura des petites piles de cartes devant lui avec des formes spéciales, recto verso, des petits dessins qui piquent les yeux, et puis on va en retourner et puis il va falloir essayer de découvrir le plus vite possible des paires. Alors on va pas se précipiter sur un tas comme dans le Jungle Speed en attrapant un totem, non. Les paires, les cartes sont réparties au centre de la table se remplit au fur et à mesure qu'on retourne des cartes, et le but du jeu va être de taper avec ses deux mains sur les deux paires une fois qu'on les a repérées, les mettre de côté. Voilà, et il y a 3 modes de jeu, soit on joue en compète, chacun pour soi, le premier qui a 5 paires réunies a gagné la partie, ou alors on va jouer en coopération, et là pareil, de deux manières, en coopération-compétition, on fait des équipes, et là avec une seule main, chacun des joueurs n'a le droit d'utiliser qu'une seule main, et on va taper sur les paires une fois qu'on les a repérées, avec des pièges, s'il y a des triplettes à l'intérieur, ou alors on joue en coopératif tous ensemble, avec une espèce de genre de combat de vitesse, de chrono, de record à battre. Ça fonctionne à la perfection, ça renouvelle totalement le genre, c'est complètement dingue, ça fait travailler les yeux, ça fait travailler l'esprit, ça fait travailler la tête. Twin It est très très bon, c'est un jeu de Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Tom Vuarchek. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes, et ça coûte dans les maximum, je dirais, 20€ dans toutes les bonnes boutiques. Et mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net, TrickTrack.tv, Facebook, Twitter, tout ça, enfin partout où il est, il faut suivre Monsieur Fall.
Sur MySpace, allez voir.
Et il a son Skyblog. Hein, voilà. ça fait quelques semaines que c'est un peu rampant. Il fallait qu'on en reparle. Hein. On avait parlé de Resident Evil 7 sur le PlayStation VR. Tu nous en avais parlé d'ailleurs. Je suis toujours pas remis du fait que tu aies fait Resident Evil 7 sur VR. Et là, c'est un peu le premier format blockbuster, hein, et exclusivement dédié au PlayStation, et pensé pour le PlayStation VR. Ça s'appelle Farpoint.
Wait. Destination unknown.
This planet is almost 800,000 light years from Earth. We're in the middle of the most fascinating scientific opportunity in history.
Farpoint, alors Farpoint, c'est un jeu. C'est aussi un casque et c'est un machin, qu'on appellera un machin. On l'appelle le machin ou on l'appelle autrement.
L'accessoire, tu veux dire
on peut dire aussi l'accessoire.
Le M-Controller. M-Controller.
Le M-Controller, voilà. Qui est une.
Un tube
en forme. Non, il n'est pas en forme de fusil. Il est
on tient comme une mitraillette.
Voilà,
un petit
il
peu,
a deux gâchettes, il a
mais
des.
Mais c'est pas grave, on ne voit pas, parce que nous, on a le casque sur les yeux. C'est les autres qui nous voient avec.
Ouais.
C'est
pour
les
autres. Mais nous, on ne le voit pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres.
Non, voilà. Quand on joue en VR, c'est mieux.
Il ne faut pas qu'il y ait d'autres.
C'est mieux, c'est plus
simple. On est seul, on est bien, on est entre soi. Et on joue à Farpoint, donc on commence dans un vaisseau spatial, on s'écrase.
Et oui, donc un bon petit scénar de série B, hein, de bons films de science-fiction série B. Il y a pas mal d'influences qu'on reconnaît tout de suite.
Interstellar.
Donc on est ce cosmonaute qui se retrouve sur une planète accidentée. Il a perdu contact avec deux de ses collègues et il va chercher à les retrouver. On comprend qu'il y a un problème d'espace et de temps, etc. Enfin, il se passe pas mal de choses. C'est plutôt bien ficelé. Je trouve que le scénario est rigolo. C'est une bonne série B. Et puis évidemment, sur cette planète, il y a beaucoup de menaces, notamment d'ordre arachnide. Alors c'est bien quand on est arachnophobe, on est servi. Parce que
quand on fait des motocross,
non, ça c'est dans le film dont je te parlais tout à l'heure, c'est autre chose. Mais non, il y a beaucoup de monstres arachnoïdes qui nous courent après. On pense à pas mal de choses. On pense à Interstellar pour le scénario, on pense à Aliens pour le côté volume de monstres qui nous attaquent parfois, et puis à Starship Troopers notamment pour ces monstres gluants qui lancent des spores dans tous les sens. Que, voilà. Donc c'est plutôt rigolo ce jeu surtout il vaut surtout le coup lorsqu'on y joue avec ce aim controller, ce fameux accessoire en forme
on peut y jouer autrement.
On peut y jouer au DualShock je crois, mais je pense pas qu'il y gagne.
Le seul truc qui est nécessaire c'est le PSVR.
Oui, le PSVR et la caméra je pense mais on peut y jouer à la manette.
Il se vend en bundle donc avec une sorte de mitraillette tubulaire comme
blanche,
ça
blanche qui ressemble à un.
Je le compare au Wii Crossbow Training de la Wii, c'est pareil hein, c'est tu mets à Wii mode nos espèces de machins, c'est
sauf que il est vendu
à part que voilà c'est pas un move qui est encastré dedans. C'est une manette à part entière. Alors moi j'ai eu un petit problème d'installation parce que j'ai mis en... parce que moi je joue plutôt assis en général. Je joue plutôt assis à la VR la plupart du temps. Là je me suis vite rendu compte que ça marchait pas bien, j'avais des problèmes de repérage. Je me suis levé, j'ai poussé les meubles, parce que voilà je joue dans un espace un petit peu réduit. J'ai réussi à me faire mon installation et là ça marche. Il a passé ce moment d'installation.
Sortir de chez toi, mais
non, non, mais en fait, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'on on met en route le jeu, on tient cette manette, on la tient fort, etc. Puis il y a ce truc avec la VR. Il y a ce truc, c'est que on oublie ce bout de plastique qu'on a dans les mains, et à l'écran, c'est un super gun avec des reflets. Il est très bien fichu visuellement. Les armes sont bien représentées.
Dans le jeu.
Oui, pardon. Une fois qu'on voit ce qu'on voit nous en tant que joueur dans son casque, il est mis en scène. Ouais. Il se passe un truc, c'est que la VR, on en parle depuis maintenant des mois, il y a cette tromperie avec le cerveau, évidemment, on s'amuse à tromper le cerveau, et là, il y a cet objet en plus. Alors, c'est pas le premier objet lié à la VR, on sait qu'il y a les touch sur les autres cas. Mais là, sur la Sony, il y a un truc en plus. Il y a ce moment où vraiment, on a l'impression d'avoir le flingue dans les mains, et c'est vrai qu'il y a ces mouvements qu'on fait, et qui sont vraiment bien reproduits une fois qu'on a bien calibrer son arme. Les mouvements sont bien produits.
Je voulais pas savoir ce que ça donnait. Parce qu'en fait, je crois que le truc qui a quand même impressionné, et après je parlerai du reste, mais le truc qui m'a impressionné, c'est que sur l'arme, il y a un viseur.
Oui.
Et en fait, tu te retrouves.
Mais ça, c'est là.
Et j'ose même pas imaginer à l'extérieur ce que ça donnait. Mais tu te retrouves à faire ça et à fermer un œil pour viser dans un casque VR. Et c'est très impressionnant parce que effectivement, ça marche. Tu es là et tu vises et tu vois le viseur holographique. Et ça fonctionne quand même.
Ça fonctionne et je crois pas que le jeu te le dise de le faire. Et j'ai compris que le jeu avait gagné quand je l'ai fait instinctivement.
Bien sûr.
Tu vois, j'ai pris le flingue et j'ai commencé. Et là, je me suis dit, il a gagné. Je crois pas qu'il nous le dise de le faire, je me trompe peut-être, mais je l'ai fait instinctivement. Et c'est là que tu te dis, je suis dedans en fait, je suis dedans. Et surtout, ce jeu, je trouve qu'il illustre la capacité de la réalité virtuelle à transcender un genre basique. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, c'est une honnête série B, c'est un FPS honnête avec des aliens, mais qu'on a déjà vu.
Sans VR.
Il a très peu d'intérêt. Et c'est là où je trouve...
Aucun.
Et c'est là où je trouve la force de la réalité virtuelle, c'est qu'il te procure une expérience vraiment, vraiment enthousiasmante. T'es vraiment dedans, tu y crois et tu prends ton pied à dégommer les monstres et tu dis ça sur un écran à 2D tout simple, il aurait pas d'intérêt, il serait pas intéressant. Et là, tu te dis vraiment, il y a cette capacité de ressentir les endroits. Et c'est vrai que t'as plein de sensations avec ce jeu. Il est bien fichu parce que t'as la sensation de l'arme qui est vraiment importante. On disait le toucher, la façon de viser. Ouais. Tout est instantané. Enfin, tu peux buter un monstre comme ça, au tir comme ça, lorsqu'il se rapproche. Tu peux t'amuser. Tout ça se fait de façon complètement instinctive. Tu te mets presque à performer, c'est-à-dire physiquement. Tu te mets vraiment à jouer parce que, au début, j'ai eu un peu de mal avec le mouvement parce qu'en fait, on peut aussi changer la maniabilité. Mais en fait, il y a deux sticks sur la manette, et le stick de droite ne fonctionne pas de base. C'est-à-dire que les mouvements pour se déplacer se font avec toi-même, en fait. C'est-à-dire que tu avances avec le stick pour l'avancer, mais les mouvements latéraux se font... Le strafe se fait avec là aussi avec le stick comme ça, je crois, mais les mouvements pour se déplacer, tourner, se font physiquement. Et ça, il faut un petit moment d'adaptation. Au début, j'étais un peu...
Stick droit, c'est toi.
Et en fait, c'est toi. Mais ça marche bien, ça marche bien. Et puis, il y a des petits effets. Alors ça, il m'a fallu quelques instants pour bien m'y habituer, parce que c'est pas instantané.
En même temps, on a le temps. Les monstres mettent du temps à arriver la première fois.
Ils sont très civilisés, ces monstres. Ouais. Ils nous attaquent pas trop par derrière. Mais non, mais on sent que le jeu a été vraiment fait pour ça. Et c'est là que c'est intéressant avec cette intelligence. C'est-à-dire que le jeu.
Ils sont un peu des gros araignées, mais.
Mais ils nous attaquent pas par derrière. C'est-à-dire que le jeu a été vraiment pensé pour qu'ils repassent toujours devant nous. Enfin, il y a aussi une mise en scène. Le jeu est fait pour ça. Il a vraiment été pensé pour une mise en scène de VR.
C'est du tir au canard.
En fait, il est un peu entre le FPS et le rail shooter, en fait. Ouais, même si tu avances, tu es libre dans tes déplacements, mais il y a un effet, shooter clairement assumé. Mais tu en prends plein les yeux, parce que même si, comme on disait, il serait sur un écran 2D, il serait lambda, il n'aurait pas vraiment de cachet. Mais là, tu te balades, tu as la sensation d'ampleur des endroits, tu rentres dans des cavernes, dans des endroits où tu as vraiment une sensation de grandeur. Les ennemis, tu peux les aligner au loin, c'est-à-dire que tu vises vraiment des ennemis très loin. Mmh. Ça fonctionne. Enfin, il y a vraiment un effet super prenant.
Ça fonctionne. Il y a un truc qui est assez impressionnant. Il y a des paysages. Dès le début du jeu, à un moment, on déboule d'une sorte de caverne et on arrive dans un extérieur comme ça avec un gigantesque volcan et avec une fumée qui se dégage jusqu'au ciel, une fumée très imposante. Et c'est vrai que dans le casque VR, on est là, c'est ouh, ah ouais, quand même. Enfin, il y a un côté comme ça. Moi, d'une manière qui ne sera une surprise pour personne, j'ai tenu trois quarts d'heure, une heure.
T'as été malade.
La sueur qui commence.
Une heure, c'est normal. Une heure sur un
coup. Ouais, il faut pas faire des sessions trop longues.
Ouais,
dessus,
un peu moins. Non, parce que j'ai été plus loin que ce que j'aurais dû.
T'as poussé un petit peu. Ouais, ça, la VR, il faut pas pousser.
Ouais, mais le problème, c'est
quand
que.
T'as des gouttes de sueur et tout.
À un moment, tu mets le casque, t'as envie de jouer plus qu'un quart d'heure. En fait, le truc, c'est que même si on est debout dans son salon, parce qu'effectivement, ça se joue debout, y a pas photo. Le fait est qu'on n'avance pas, on ne marche pas, et son avatar marche, son avatar fait
la manette, les
trucs sur les côtés et tout ça. Et voilà, et moi je suis pas à l'aise. Il y a vraiment, je ressens un truc, un problème de dissonance qui me rend pas malade tout de suite, mais je ne suis pas tranquille.
Est-ce que tu y joues tard le soir, tôt le matin? Non, ça peut jouer aussi. Enfin, la fatigue aussi. Non, mais l'état dans lequel tu es,
Après, dans la VR, c'est pour ça que la VR d'ailleurs de Vive et d'Oculus, quand on est dans un espace clos où on peut se déplacer dans cet espace clos nous-mêmes, c'est quand même moins, ça provoque moins de malaise. Mais c'est vrai que je comprends ce que dire.
Ouais, mais après, je trouve, ça marche plutôt bien le fait d'avancer avec le stick. Tout ça est plutôt bien géré, je trouve. La visée par le regard, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on est sur une expérience plus longue que la plupart des expériences qu'on a sur VR aujourd'hui, donc c'est un jeu plus long.
Combien de temps la campagne?
Je dirais 7 heures, 6-7 heures dans ces eaux-là à peu près, mais c'est long pour un jeu VR, on n'est habitué à ces formats, à part Resident Evil 7.
C'est
un jeu qui peut être plus exigeant aussi, il y a des petits points de difficulté, parfois il faut apprendre, on est beaucoup dans le déplacement, et c'est un jeu qui joue là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion des armes,
la gestion du déplacement. Moi le truc c'est que, en fait, pour ne pas être malade, je faisais super attention à aller vraiment tout droit, à pas faire les pas sur le côté.
Et le jeu te demande de tout le temps être en mobilité.
Mais
lorsque t'as 3-4 ennemis,
je pouvais pas aller vite.
Et puis l'angoissant, des fois t'as des grosses araignées qui se jettent sur toi, qui te bouffent, quoi. Donc il y a des moments vraiment assez stressants. Et je pense que ça peut jouer aussi un côté. Mais le jeu le fait bien quelque part. Il assume aussi ce côté un peu stressant, un peu speed. Mmh. Et
Et moi, je trouve, moi, j'en veux d'autres. Enfin, c'est génial. Là, là, justement, j'avais parlé il y a quelques temps que je voulais un Doom en 3D. Et ben, on y vient. Là, ce jeu-là, il prouve que, en adaptant, c'est-à-dire que la mise en scène adapte le fait qu'on est en VR, c'est que les monstres te sautent pas dans tous les sens. On sent vraiment que le jeu a été pensé pour toujours que l'action se passe devant soi, c'est-à-dire que tu as juste ton champ de vision, c'est à toi de gérer, etc. Des petits trucs marrants, tu changes ton arme comme en faisant un mouvement. Enfin, il y a des, on sent qu'il y a une grammaire qui est en train de se mettre en place. Et je trouve ça très encourageant de me dire, ça fonctionne, on peut le faire. Mais allez-y, foncez. Là, il en faut d'autres. Il faut d'autres.
Moi, j'avoue que je me suis posé pas mal de questions, hein, un peu là-dessus. Bon, d'une part sur le déplacement, parce que je pense que ça reste un problème. Je pense que c'est un jeu qui va provoquer, qui est pas pour tous les joueurs.
Moi, j'ai pas été malade du tout. Ouais. J'ai pas eu. Je trouvais que.
Mais bien sûr, j'ai tendance à être malade en VR. Ouais.
Et c'est peut-être pas le premier jeu à faire. Il vaut mieux peut-être faire des tests sur des jeux un peu plus légers, plus faciles.
Et ce que je
c'est
me
pas
suis
forcément
dit,
le premier jeu à mettre.
Ce que je me suis dit,
habitué.
Parce que les monstres tardent à arriver et les paysages sont un peu désertiques, mais c'est toujours. Enfin, même le paysage un peu moisi quand t'es en VR et quand t'es sur une planète un peu rocailleuse comme ça, il y a un truc qui marche. Voilà, oui, c'est ça.
Mais c'est flagrant, c'est flagrant, c'est flagrant.
Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie de voir de monstres. J'ai pas envie de voir d'ennemis. Ah ouais.
Et pourtant, t'es là pour ça, quand même.
Mais
il faudrait une option balade touristique.
Mais il y a une question, c'est est-ce que. Enfin, après, voilà, j'ai avoir l'air d'un con en disant ça, mais est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu de tir avec des ennemis, machin, en VR Moi, je ne suis pas convaincu. Les jeux de tir, c'est bien sur la télé et tout
Moi, je trouve qu'il y a un côté angoissant. Il y a quelques arènes, en fait, on avance, on est beaucoup sur un jeu à couloir. Hein, de toute façon, il est fait pour pas qu'on se perde dans tous les sens.
Mais moi, j'ai un problème, mais tu te rends pas compte que j'ai déjà un problème d'immersion dans un FPS. J'ai déjà un problème d'immersion, je déteste me faire tirer dessus dans un FPS.
Je comprends ta problématique. Après, moi, ce que je dis, c'est que moi qui aime bien les FPS comme ça, assez nerveux, j'ai eu des sensations de profondeur lors de certaines arènes un peu fermées, où j'avais vraiment un ressenti de voir les monstres à quelques dizaines de mètres. J'avais un ressenti des dimensions que j'ai rarement dans un jeu traditionnel sur un écran classique.
En fait,
ça apporte une vraie sensation de dimension et même là de d'immensité des espaces. Et ça, je trouve que c'est vraiment réussi.
Je préjuge pas, j'ai pas fait le jeu, mais du peu que j'en ai vu, c'est vrai que j'ai l'impression d'être devant un FPS un peu classique, là où peut-être on demande peut-être des réflexions un peu plus en profondeur sur le game design.
Ah, je pense, par exemple, c'est un début.
Là, j'ai pu essayer il y a quelques jours Super Hot VR.
Ah oui.
C'est un autre jeu. Quoi. Parce que les mecs, ils ont réfléchi de A à Z dessus, tu vois.
Il n'est pas arrivé sur le PlayStation
non,
VR.
Non, je crois que c'est pas encore. J'espère. Je sais pas s'il est annoncé d'ailleurs, je suis pas sûr.
Du coup, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait, je comprends l'intérêt de la VR.
Il faut tout.
Notre corps et la manette, quoi, vraiment entièrement. Et là, on est plus dans un FPS de l'ancien monde adapté.
Je suis exactement.
On est d'accord. Mais il faut aussi ça. Ça peut être un marchepied pour aller vers d'autres expériences plus sophistiquées.
Par contre, c'est bien de faire des essais. On peut changer. C'est comme ça qu'on a commencé aussi. Moi, j'avais essayé Half-Life 2 à l'époque du DK1, de machin. C'était l'horreur. J'étais malade tout de suite. Et puis, au bout d'un moment, les développeurs se sont dit, tiens, en fait, on va se faire des déplacements en téléportation. Et maintenant, dans la plupart des FPS où on doit se déplacer, on se déplace en se téléportant par des dashs très rapides.
Ouais. Bah, ils l'ont pas fait,
et ça rend pas malade. Et du coup, ça m'étonne qu'ils aient pas fait les dashs.
Ils ont tenté le côté FPS, mais pour moi, marche bien. Après...
Le vibreur du gun marche très bien aussi. Franchement, non, non mais je parle des détails, hein, c'est les détails qui font tout. Mais pour le coup, le vibreur,
cette sensation de toucher un objet, de l'avoir devant toi, enfin il y a un vrai. Et les armes sont bien.
Ça s'appelle Farpoint.
Avec les compteurs, ce sont l'arme, les compteurs de bombes. Toutes les armes ont une seconde arme secondaire et tout ça est inscrit sur l'arme qu'on peut regarder.
C'est un poil cher en bundle avec le machin, ça doit être 90 €.
Mais il faut espérer que
franchement, à ce prix-là, moi je disais, pourquoi ils nous filent pas le tube vide et tu mets un move au bout? Parce que là, je croyais qu'on mettait un move, moi, au départ.
Non, il a l'apparence, mais non, c'est un accessoire.
C'est
à part
nul,
entière.
Ils auraient pu mettre un move au bout et basta.
Après, espérons qu'il y aura d'autres jeux qui vont l'utiliser.
Je crois qu'il y en a trois actuellement prévus en comptant Farpoint. Ouais.
J'y crois pas trop.
Espérons que d'autres jeux vont arriver.
Mon problème, c'est qu'on est encore, exactement ce que tu disais, on est encore sur cette translation du jeu vidéo classique dans la VR, je pense. J'espère qu'il y a autre chose à penser.
Il faut un peu de tout. Enfin, il faut différentes expériences sur la VR, je pense.
Et peut-être aller dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ouh, quelle transition avec... non, bon, ça va. Avec Everything. When you came into this world,
there gradually arose into being the sensation of I. And you feel that you are I just as much as I feel that I am I. But all the time, everywhere, there are other eyes starting up. Whether they be human, animal, anything you like. There be in other galaxies, etc. Always, they're starting up. And so the feeling that we call I is how everything feels on the inside.
Everything, on commence en jouant une tari, un phoque. Un phoque, je pense.
T'as vu un phoque?
Ouais, ouais.
Ah, moi j'ai vu un cheval.
Ah, bah d'accord, bon, bah, on quand même. Un début différent.
Je sais que d'autres ont eu un cerf. Enfin, tu as une série d'animaux que tu peux commencer au début.
D'accord.
Mais peut-être tu vas introduire le jeu un petit peu. Non, je vais le faire.
C'est compliqué à introduire en même temps, Everything.
Alors, Everything, c'est un jeu de David Aurélie. Alors, David Aurélie, il avait déjà fait d'autres jeux avant, dont un jeu qui s'appelait Mountain, où tu jouais une montagne. Surprise. Hein.
Le gameplay d'une montagne.
Voilà, hein, le gameplay d'une montagne est incroyablement incroyable. Moi, je n'ai vu que de loin ce jeu, mais on voit la montagne dans différents moments de l'année, tout ça. Donc, bon, voilà, on joue un écosystème, tout ça, bref. Bon, eh ben, on est reparti, sauf que cette fois, on joue avec tout, avec everything, hein, avec tout. Et de comme tu le dis, au début, on a une petite particule blanche, on se déplace dans l'espace, voilà, on se déplace, on ne sait pas où on est dans une immensité noire, puis d'un seul coup, cette petite particule se révélera être un cerf, un cheval, un phoque pour toi, et on se met à se déplacer. Non, on est sur Terre, En fait, la petite particule blanche, dans un fade out incroyable, se transforme en animal. Et là, on se dit, ah, ça y est, je vais jouer un animal dans la prairie. Et là, c'est le drame, ton animal se déplace, alors c'est pas très radiophonique, mais grosso modo, comme quand vous prenez, imaginez votre animal est raide, imaginez c'est un jouet, votre animal est
un jouet en plastique,
voilà, et vous le faites rouler comme ça.
Et qui roule.
Il roule sur la tête, puis sur le dos, puis sur le cul, puis sur les pattes, puis bref. Donc c'est ridicule, hein, on rigole, on fait « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors tu commences à rouler comme ça, voilà, puis tu croises d'autres cerfs qui se déplacent de la même façon, puis tu vois des singes, pareil, qui se déplacent de la même façon, un ours qui est debout, mais pareil, hein, il se met sur le ventre, sur la tête, etc. Et tu fais « ok, très bien le jeu, qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?» Et au fur et à mesure que tu vas avancer, donc tu vas parler à différents… tu vas te mettre à pouvoir parler à…
Chanter.
Chanter, oui, bon, c'est... Bon, hein, on va pas commencer à entrer dans la neuve langue de ce jeu, mais grosso modo, oui, on peut chanter, on peut faire plein, on peut danser aussi, hein, pour pas dire... bref. parce que, bon, danser, ça couplait et tout ça. Voilà, donc on incarne au début une entité, puis on va parler à d'autres entités qui ont des pensées, comme... ah, je me disais que s'ennuyer, des fois, c'était pas mal. Voilà, ok, bah, tu continues ta route, hein, pas de problème. Et puis tu rencontres un ours qui se dit « Dis, tu penses que j'ai une grosse tête ?» Voilà, puis tu continues, voilà. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, puis au bout d'un moment, il y en a un qui te dit « Salut, à partir de maintenant, tu vas pouvoir, je sais pas, tu vas pouvoir former des groupes avec d'autres mecs de ton espèce. » Voilà, donc moi j'étais un cheval, donc je trouve un petit troupeau de chevaux, pardon. Et je vais voir « Bonjour !» et j'ai commencé à les ramener. J'étais un troupeau, tu vois, j'étais « Waouh, trop bien, je suis un troupeau, c'est super, on se balade et tout. » Et voilà, et tu fais « Je suis tombé où là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, voilà, au fur et à mesure, en fait, c'est un jeu qui... C'est un peu un unfolding game. C'est-à-dire c'est un jeu qui se révèle, qui te donne de plus en plus de pouvoirs jusqu'à te donner tous les pouvoirs, en fait. C'est ce qui se passe dans Everything. Donc, je ne vais pas spoiler quels sont ces pouvoirs, mais le pouvoir le plus important qui va arriver, la possibilité, c'est qu'on va pouvoir incarner d'autres choses. Donc, au début, on est un cheval, mais on va pouvoir aller dans le singe qui est à côté, puis dans le morceau de... dans le buisson, puis dans l'arbre. Et pareil, et l'arbre, il va se déplacer plus ou moins vite. Et puis, au bout d'un moment, on va pouvoir aller dans des choses de plus en plus grosses, de plus en plus petites. Donc, au départ, ils nous font dans le plus petit, donc on va dans un petit patch d'herbe comme ça, et hop, on est une fourmi, hop, et puis en fait tout le monde autour de nous est gigantesque, on fait waouh, je suis une fourmi, c'est gigantesque, et puis ensuite tu te dis, mais je peux encore aller plus bas, bah oui, tu peux aller plus bas mon gars, et hop, t'es une bactérie, et hop, t'es une, etc., t'es une molécule et tout ça, et donc tu peux aller en effet dans l'infiniment petit, puis au moment tu fais, hey, tu veux pas remonter un peu, et puis tu remontes, tu redeviens un cheval, puis après on va dire, tu veux pas être un arbre, et puis une montagne, et puis un continent, et puis la terre, et puis le soleil, et puis une galaxie, etc., et en fait tu peux, voilà, tu peux vraiment aller dans toutes les échelles comme ça d'espace, et c'est un peu le trip, voilà, il y a cette fameuse animation flash, enfin c'est pas une animation flash, mais c'est une espèce de d'animation qu'on a sur internet, où on peut aller vraiment du plus grand, puis on zoom, 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 c'est ça, mais en jeu vidéo, voilà, c'est-à-dire vraiment, on peut tout incarner, on peut tout être, et on aura des on aura une petite description rapide dans une espèce d'encyclopédie, un compendium qu'on aura dans le menu start, et il y a un petit côté collectionnite de tout découvrir, un petit côté encyclopédique, d'autant que On va se déplacer, on va aller parler à des mecs, et il y en a certains qui auront même des extraits sonores d'un philosophe, Alan Watts, qui est donc un philosophe britannique, si je ne me trompe pas, et qui, lui, donc, avait toute une... Enfin, toute sa structure de pensée, c'était autour du tout. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, l'univers n'est pas un seul être vivant, ou en tout cas, est-ce que nous ne sommes pas liés par le simple fait que nous sommes faits de la même chose? Est-ce qu'on n'est pas fait du même Big Bang, de la création? Est-ce qu'au final, ce morceau d'herbe n'est pas aussi vivant que toi, être humain?
C'était aussi la fin de L'Homme qui rétrécit. Enfin, c'est sans spoiler, parce que le spoil, maintenant, le film est sorti.
Et donc, on entend ces morceaux...
C'est problématique.
Mais c'est un peu ça. Enfin, je vois pas trop la fin sur les trucs, mais si c'est... Oui, ouais, c'est ça. C'est, tout est lié, tout est lié.
Jusqu'à l'extrême.
Ah oui, d'accord. Bah, là, on peut aussi grossir, donc c'est au choix. On a le choix, là, dans ce choix. Et donc, on a en fait... on a cette réflexion-là d'Alan Watts qu'on a vraiment en fond sonore, parce qu'on a beaucoup, très, très souvent... Ce philosophe qui vient nous parler pendant qu'on est en train de jouer, pendant qu'on est en train d'être un troupeau d'arbres, ça ne veut rien dire, mais ou ce genre de choses. Et on a l'application, c'est-à-dire vraiment, on est un tout et on peut être ce qu'on veut quoi, dans le jeu, et on peut aller dans l'extrêmement grand, puis on peut être un cluster de galaxies, et on entend en même temps qu'il nous dit, mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'être un être humain, c'est pas aussi être une planète, c'est aussi être une galaxie? Et donc, c'est un peu étonnant parce que je me dis, c'est quand même de la facilité. C'est-à-dire que pour moi, surtout, on a eu quand même ces dernières années plein de jeux qui ont décidé de prendre des concepts philosophiques forts et d'essayer de les mettre en application dans le jeu vidéo, dans des belles histoires, belles. Ouais. Je pense à Soma, par exemple, qui est basé sur l'existentialisme et le fait que qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est quand on est une conscience et tout ça? Eh ben, il nous le met en application dans une histoire qui fout les jetons ou qui nous fait réfléchir. Mais Soma faisait peur parce que ce qui arrivait au personnage te faisait grave réfléchir et t'étais dans une espèce tu sortais du jeu et t'étais vraiment en train de réfléchir. C'était vraiment une manière intelligente de te faire réfléchir à des concepts philosophiques importants. Là, c'est vraiment le cours magistral, quoi. C'est-à-dire qu'on te balance comme ça les cours de cet Alan Watts qui avait fait des conférences, je crois que c'était aux États-Unis en l'occurrence pour le cas précis de Everything, et on te fait faire des choses où finalement on sait pas trop ce qu'on te demande, quoi. Alors on peut tout agréger, on peut être n'importe quoi, on peut remplir une espèce d'encyclopédie, y a pas trop, on donne de plus en plus de pouvoir, mais en même temps...
C'est un peu, pour le coup, du what the fuck illustré, en fait.
Ouais.
Moi, franchement, le concept m'avait fait envie. J'avais regardé des vidéos et des choses comme ça. Je trouvais ça super marrant d'aller dans le très petit avec des transitions quand même qui sont plutôt réussies.
Et même, je trouve que les décors, quand on est petit, sont cool, parce qu'il y a un joli flou.
Il y a une profondeur de champ. Enfin, il joue vachement là-dessus. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que t'es allé dans l'infiniment petit... aller dans l'infiniment grand, retourner dans l'infiniment petit et retourner dans l'infiniment grand, et tu te dis ouais,
et maintenant,
et alors, et en fait sur le et alors, la question tu la trouves tu la trouves pas, parce que il y a une sorte de il y a everything, c'est comme le nom l'indique, mais du coup voilà, on manque
une certaine vacuité dans le jeu,
oui, parce qu'on sent une sorte de prétention,
ouais. C'est ça le problème.
On sent la prétention du truc avec le discours du philosophe.
C'est pas inintéressant par ailleurs, mais...
Oui, mais du coup, voilà, on a l'impression d'une sorte de lecture premier degré du truc qui est un peu facile. Et je trouve que sur ce concept complètement what the fuck qui marche, hein, qui est vraiment assez grisant
au début,
dans les 20 premières minutes de jeu sont vraiment très très marrantes, parce que on se transfère,
on essaye tout,
on essaye quand même de faire des tribus de continents, tu vois, enfin tu vois, des trucs
de continents,
ou un troupeau d'amas de galaxies, tu vois, c'est assez trippant, quoi, quand même.
Ou un troupeau de longueur de planque aussi, c'est idiot.
Mais et puis à la fin c'est, on se dit ouais, et alors, c'est vrai que passer les 20 premières minutes de jeu, on a un peu l'impression de tourner en rond.
Alors, j'ai fini le jeu, il y a quand même un fil rouge, c'est tous ces pouvoirs qui se dévoilent au fur et à mesure du jeu, en fait, de manière mécanique, enfin de manière, on va dire, automatique, scriptée. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, c'est au bout d'un moment, tu vas jouer un certain nombre de temps et au bout d'un moment, ça va se débloquer. Il y a un mec qui va te dire, hey, viens me parler, j'ai un nouveau pouvoir à te filer. Et au bout d'un moment, on va arriver dans une micro-aventure, on va dire. Il y a vraiment un tout petit peu de narration. Il va falloir, il y a un objectif à atteindre,
ouais.
Et tu vas te poser la question de comment je vais l'atteindre. Si vous réfléchissez deux minutes, vous allez pouvoir le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident, et beaucoup de gens vont criser là-dessus, je pense, pour finir le jeu. Ils vont criser, je pense. Je pense que c'est pas un spoil, je vais simplement dire, mais à la fin, au bout d'un moment, on va vous demander de retourner à votre point de départ. Eh ben, bonne chance pour retourner à votre point de départ une fois que vous êtes allé dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, que vous avez évité des planètes extraterrestres et tout ça. en fait, il y a une astuce, évidemment, mais voilà, il y a quand même ce fil rouge. Au moment, on va dire, en fait, il faut vraiment que tu fasses ça, c'est très important. Donc, tu vas le faire, et puis il y a une micro-histoire qui se met en place. Au final, tu es quand même un minimum satisfait de l'aventure. Mais il n'empêche que même une fois qu'on t'a donné tous les pouvoirs, t'as pas très envie d'y retourner, quoi. T'as pas très envie de. Ça fait un joli fond d'écran. Il y a un mode fond d'écran qui se débloque avec, tu vois, un élément à chaque fois aléatoire avec sa description Wikipédia. Très bien, mais ça fait pas un jeu, quoi. Moi, je vois vraiment ce Everything, c'est en effet, il y a une prétention, tu as tout à fait raison, c'est la prétention dans The Witness, sans le génie de game design derrière, et à mon avis, c'est un peu problématique, parce que dans The Witness aussi, il y avait des citations lues, de littérature, mais il y avait un jeu derrière, il y avait un truc. Alors, on aime, on n'aime pas, moi, je suis plutôt de la team, j'aime moyen The Witness, mais je reconnais quand même qu'il y a une vraie réflexion de game design, qu'il y a un vrai quelque chose, que le mec, il c'est pas juste du blabla balancé et illustré, quoi. Voilà, je pense que...
C'est un exercice de style, quasiment.
Ouais, c'est presque un exercice de style, mais... aujourd'hui, on a tellement d'autres manières de faire de la philosophie, et même dans Nier Automata, je le répète, mais dans Nier Automata, il y a vraiment des concepts de... rien que par la sauvegarde, enfin, ceux qui auront fait Nier Automata comprendront ce que je dis, mais qui sont mis en application dans le jeu, et ce qui fait que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus percutant quand on joue au jeu que simplement cours magistral avec illustration par le jeu, quoi.
Tout à fait. Un autre cours magistral, peut-être. Non, ça n'a pas rien à voir, mais... sur une autre façon d'envisager la narration.
Différente.
Je me rappelle des fois on parle de certains jeux en disant ouais mais est-ce que c'est un jeu vidéo, c'est pas plutôt un film interactif? Bah, pour le coup, on va parler d'un film interactif là pour le coup qui se revendique comme
peut-être
tel.
Peut-être que sur PS4 et PC, je crois qu'on l'a jamais dit.
PS4 et PC. Et voici. Et nous ça s'appelle Late Shift.
The Maserati.
Get over here. Now! Or we need to tie her up. Get back here.
Here's the baggage.
C'est un peu ce qu'on imaginait dans les années 90. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Patrick, mais ce qu'on imaginait dans les années 90, qu'on se disait un jour. Il y aura des films interactifs.
c'est vrai.
Il y avait cette réflexion. Est-ce que le film va vers l'interaction? Est-ce que pas? Est-ce que truc? Et là, en fait, Late Shift, j'étais très étonné. En fait, c'est une sorte d'anachronisme en 2017 d'avoir un truc qu'on imaginait dans les années 90, mais léché et joué et construit comme un truc de 2017. Et ça fonctionne. Très bien, Late Shift.
Alors, Late Shift, il se revendique ouvertement comme un film interactif, c'est-à-dire qu'il ne joue pas sur l'ambiguïté. C'est un film interactif. Il se présente comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une vidéo.
Avec des vrais acteurs, enfin, c'est de la
vidéo. Avec des vrais acteurs. En fait, le gameplay, contrairement à beaucoup de jeux en full motion vidéo, comme tu disais, c'était la grande mode il y a une vingtaine d'années, qui a cherché des. Il y a beaucoup de recherches de comment est-ce qu'on implémente du gameplay là-dedans. Est-ce qu'on fait un point and click? Est-ce qu'on fait de l'interaction avec des QTE, des choses comme ça? Tout ça. Il y a eu des choses comme ça, mais là, c'est pas du tout le cas. Et là, on est vraiment sur du pur jeu de décision. C'est-à-dire que le film se met en route et on va, en tant que joueur, avoir quelques décisions. Je crois qu'il y en a 180 en tout dans tout le jeu, mais bon, ça dépend de la partie, des choix qui vont se mettre en route. Le film s'enclenche et on doit prendre des décisions. Alors, c'est intéressant parce que ce jeu, lui, s'inscrit, donc il est purement réalisé en vidéo et il s'inscrit dans une sorte de revival de cette catégorie. Il y a eu des titres comme Her Story qui a fait pas mal parler de lui, qui a remis aussi en avant une certaine façon de mettre en scène la vidéo. De façon bien plus intelligente que ce qu'on a pu avoir il y a une vingtaine d'années. Il y a eu The Bunker aussi qui est sorti il y a quelques mois, qui a fait un peu moins de bruit. Mais là, on est vraiment sur un cas, sur une expérience particulière. C'est-à-dire que les gamers forcenés vont pas forcément accrocher parce qu'on n'est pas sur une interactivité pendant tout le film. On est avant tout spectateur, mais on a cette capacité de prendre des décisions en suivant un personnage principal. Donc on suit Matt, c'est un étudiant surdoué en mathématiques qui est gardien de parking.
La nuit,
lui, ouais. Voilà, donc il travaille comme ça.
Il s'appelle Matt, il est fort en maths.
Il est, voilà, okay. Attention, tu vois. Et du coup, et en fait, il va se retrouver malgré lui embarqué dans une histoire de casse, il est emmené là-dedans, et bon, il va lui arriver pas mal de choses, et on est vraiment sur du thriller filmé à Londres, donc avec une, ouais. Voilà, une ambiance très particulière. C'est très léché, visuellement,
super bien joué, c'est bien écrit.
Très bons acteurs, c'est pour ça que ça
bien
fait
filmé.
Drôle. On n'est pas habitué à ça.
La photo est nickel, enfin, et là, t'es là, mais...
On n'est pas habitué à ça, et comme tu dis, c'était un peu l'idéal.
C'est toi ?
Non, mais... mais c'est ça, c'est pas du bon ça, quoi.
En fait, on était habitué sur l'époque de la full motion vidéo, il y a 20 ans, où on... bah, déjà, c'était tout pixelisé, on avait ces vieux gimmicks de l'acteur qui nous parlait, hey, « Hé, toi, derrière la caméra !» Et c'était cheap ouais. Possible. Et souvent, c'était mal réalisé. Enfin, c'était... Ouais. Les mecs qui filmaient, bon, c'était vraiment fait à l'arrache et avec très peu de moyens. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, on a vraiment une belle image, on a, comme tu disais, des bons acteurs. Ça, c'est important. C'est important. L'identification qu'on va avoir avec les personnages, l'intérêt qu'on va avoir pour l'histoire, elle tient dans les acteurs. Et là, ça marche vraiment bien. Le rôle principal est très bien joué. Ouais. Et puis, il y a vraiment cette interactivité, elle est bien jaugée. En fait, il y a ce que j'ai apprécié, c'est que ça ne s'arrête pas. On est un peu dans la méthode telle où on a des. Donc, le film s'avance et hop, faut très vite prendre des décisions. On a quelques secondes avec une barre qui très vite se réduit.
Ça se déroule, quoi.
Ça se déroule et comme tel, on a ce stress. On a ce stress de dire vite, il faut que je choisisse.
Il y a des subtilités de montage qui fait que c'est fluide.
Les raccords se font.
C'est-à-dire que les raccords sur quand il y a trois embranchements, par exemple, tu peux prendre trois décisions
deux
différentes.
Deux ou trois, en général, deux ou trois.
N'importe laquelle que tu prends, t'as juste l'impression que c'était dans la lignée de ce qui se passait avant, en fait. Il y a vraiment.
Il y a ce côté, on est embarqué dans le film et donc avec ce temps limité, on n'a pas le temps. Si on ne touche à rien, le jeu il va faire un choix par défaut et donc il va continuer. Le film se continue. Et ça renoue aussi quelque part avec une linéarité du médium du cinéma. C'est-à-dire qu'on part dans une aventure qui, de toute façon, va avoir lieu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est comme un train qu'on va enclencher vers un côté ou l'autre, prendre des décisions qui va. Et il y a des vraies différences. Moi, je l'ai un petit peu testé. Donc j'ai fait un premier run, évidemment, qui a très mal fini avec une fin qui n'était pas terrible. Et puis, on se rend compte en creusant un petit peu qu'il y a des vrais changements. La troisième partie, j'ai eu tout un embranchement scénaristique parce qu'on est sur des branches, selon le choix, des ramifications complètement différentes. Je suis parti sur une fin complètement avec d'autres personnages que je n'avais pas vu du tout. Donc on sent qu'il y a, je crois qu'il y a 4 heures de vidéo en tout, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup d'embranchements et ça fonctionne parce qu'il y a ces moments de stress qui sont là. Il y a vraiment cette identification. Et puis encore une fois, c'est très bien réalisé. On n'est pas habitué à ça dans la full motion vidéo. En général, c'est plutôt cheap. Là, on a des bons éclairages. C'est tourné de nuit. On a vraiment une bonne gestion.
Franchement, le fait est que c'est fun. Enfin, on a vraiment plaisir à regarder ce truc, à attendre la décision suivante. Mm-hmm. C'est super agréable. Et franchement, on finit un run. On a un peu les statistiques un peu à la Telltale, genre vous avez débloqué une fin sur 7, vous avez
avoir choisi de tuer
ce mec. Je crois pas qu'on a les pourcentages des autres joueurs,
vous avez 12 chapitres sur 14.
Il y a 14 chapitres et 7 fins possibles. Ça, ce sont les chiffres.
Et du coup, on a juste envie de refaire un
rejouabilité.
Le run, c'est combien?
Ça dépend de tes choix.
Ouais, ça va être dans une heure environ, à peu près. Ouais. Donc c'est à peu près ça.
Moi, je suis content que vous découvriez le visual novel, mais filmé en fait. C'est des choix.
Le seul truc, c'est qu'on a envie de rejouer, relance la partie pour voir les différentes ramifications, etc. Le seul truc, c'est qu'il y a pas de on peut pas skipper les scènes. On peut pas avancer plus vite. Et il y a pas de choix de chapitre, ce qui fait qu'on est obligé de rejouer complètement. Ouais. Donc le mieux, c'est pas le refaire tout de suite. On laisse passer une semaine et on peut se replonger un peu plus tard. En tout cas, c'est une réussite et ça ouvre peut-être la porte à d'autres expérimentation du genre, je trouve que ça fonctionne. Là, on a aussi une preuve qu'il y a quelque chose à creuser et foncez, ça marche, ça
late
fonctionne.
Shift.
Pas très cher en plus, c'est une dizaine d'euros. Enfin, c'est sur PS4, Xbox One, PC. Ouais. Okay. Et il y a une petite sortie en salle à une époque aussi dans les festivals. Donc intéressant, vraiment.
Une douzaine d'euros, late shift, on a fait. On va aller vite pour la fin parce que c'est fini pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Mais vous allez répondre très vite et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
The Amazing World of Gumball. Je suis en train de binge watcher The Amazing World of Gumball, qui est un dessin animé de Cartoon Network où on suit la famille Watterson. C'est débile as fuck, mais vraiment. Et plus ça va, plus c'est débile. C'est un mélange de différents types d'animation. Il y a de la 2D, il y a de la 3D. C'est très drôle à regarder. Moi, ça me fait penser à un clip de Gorillaz, mais sur une série entière, donc c'est très cool. Je vous recommande, c'est vraiment très drôle, c'est pour les petits élégants. Si vous avez des gosses, allez regarder The Amazing World of Gumball. Je sais pas où c'est en France par contre, donc renseignez-vous.
Patrick.
Moi j'ai vu Alien Covenant, évidemment, que j'attendais impatiemment depuis Prometheus. Alors Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné parce que malgré les nombres, il y a une liste comme ça d'erreurs dans le film, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de défauts. On sent que Ridley Scott est presque embêté avec la créature de l'alien qui ne l'intéresse plus, ça se voit à l'écran. Enfin, l'alien n'est plus son problème. J'ai l'impression que la Fox lui a dit « mets-nous des aliens dans le titre et mets-nous de l'alien partout ». Et on sent que lui-même ne le valorise pas autant qu'il aurait dû. En fait, il a fait le choix de centrer la problématique sur un autre personnage, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, je suis fasciné parce qu'il est en train de déconstruire complètement son univers, et finalement, il en a le droit, parce que c'est Ridley Scott. Et je trouve fascinant ce qu'il est en train de faire, malgré les erreurs, malgré les problèmes qu'on peut noter par Kiloton, ça reste fascinant. Je trouve que c'est fascinant, et j'ai hâte de voir ce que va donner le troisième opus de cette nouvelle trilogie. Voilà.
Eh ben moi, pour aller plus vite, je me permets de passer mon tour cette semaine.
Encore ?
Ah non, oui, mais moi, j'ai un Joker. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao.